Chapitre 59. Les fantômes de la crypte. Dimanche, 20 août 2000, 1h23. Ruine de l'abbaye Saint-Antoine, île de Mornecey. Thierry marchait devant moi. Je connaissais bien désormais ce court sentier qui menait à l'abbaye. La poussière du chemin, le lent mouvement des pins et des chênes verts sur les côtés. Entre les branches noires et tordues des arbres, une lune pâle apparaissait et disparaissait. Je laissais volontairement, entre Thierry et moi, un espace d'un ou deux mètres, et, de ma main droite, je détachais dans ma poche des petits morceaux de crépon que je dispersais derrière mes pas. J'essayais d'économiser. J'ignorais où on allait, et le stock dans ma poche me semblait loin d'être inépuisable. Il y avait un peu de vent, c'était une chance. Si Armand s'était bien réveillé, s'il avait compris, s'il avait pu s'échapper du camp, s'il avait repéré le premier crépon, beaucoup de si, en fait. Alors il n'aurait aucun mal à suivre ma trace. Ma trace jusqu'où? Au moins jusqu'à l'abbaye. Nous suivions le chemin qui menait aux ruines. Thierry marchait très vite, de plus en plus rapidement. Sa torche ne se posait presque jamais sur un point fixe. Elle balayait l'obscurité sans rien éclairer réellement. Je progressais derrière lui, presque en aveugle, suivant son ombre. Mon esprit essayait de visualiser autre chose que ce chemin, ces arbres tendus, ces pierres piégeuses. Il se concentrait sur ces trois visages de l'affiche. Ce visage à droite sur l'affiche, surtout. Ce visage d'un inconnu. C'était impossible, ridicule. Cela n'avait aucun sens. Et pourtant, ma mémoire semblait me souffler cette aberration, insistait stupidement. Cet inconnu à droite de l'affiche était mon père. Même s'il ne lui ressemblait pas, même s'il ne ressemblait aucunement à mon père. Ce n'était pas l'homme qui posait avec moi et ma mère devant l'abbaye sur la photo de ma table de nuit depuis 10 ans. Il y a encore un quart d'heure, ce visage sur cette affiche me semblait totalement inconnu. Et pourtant, cette certitude s'imposait. Cet inconnu était mon père. Thierry marchait vite, trop vite. Je courais presque. Mon pied cogna une pierre sur le chemin et je manquais de trébucher. Il me fallait rester concentré. Quelque chose était dissimulé au fond de ma mémoire, ma vraie mémoire. Comme si on m'en avait fabriqué une fausse. Une fausse qui commençait à partir en lambeaux et qui, en se délitant, dévoilait le véritable visage de mon passé. Avait-on trafiqué mes souvenirs? Comment était-ce possible? J'avais 6 ans à l'époque de ce drame. J'étais conscient, lucide, déjà grand. Devenais-je fou? Est-ce qu'une nouvelle fois, je voulais m'inventer un nouveau père? Avec un autre visage cette fois-ci? Nous étions parvenus aux ruines de l'abbaye. L'ombre immense de la croix Saint-Antoine semblait nous menacer. Thierry passa sans s'arrêter devant le petit guichet fermé. Une imposante grille de fer fermait l'entrée. Il braqua sa torche. Il l'éteignit et la ralluma 4 fois consécutivement, comme s'il exécutait un code. Une silhouette apparut à l'intérieur des ruines, se rapprocha. Je distinguai un bruit de clé qu'on agite. Thierry se retourna enfin vers moi. « Brigitte est déjà à l'intérieur », me fit-il d'un ton qu'il voulait sans doute rassurant. Il ne l'était pas. Le visage blême de Brigitte apparut effectivement dans la lumière blafarde de la torche. Elle choisit une clé sur le trousseau qu'elle tenait à la main, un modèle assez ancien, et ouvrit la grille, qui, curieusement, ne grinça pas. Je tentai de lancer un sourire à Brigitte, mais elle détourna son regard, cherchant au maximum à dissimuler son visage dans l'ombre. Tout dans son attitude, ses gestes, témoignait d'un profond malaise, comme il y a quelques heures dans l'infirmerie. Pire encore. Mes doigts s'agitèrent dans ma poche. Le crépon diminuait. J'en découpai néanmoins une large bande que je laissais tomber discrètement avant de franchir la grille. Thierry se chargea de la refermer, à clé, derrière moi. « Vite !» glissa-t-il d'une voix sourde. Il avança dans le noir. Brigitte restait un peu en retrait. Les ruines, contrairement à la plupart des monuments historiques que je connaissais, n'étaient pas éclairées. Ni spot, ni halogène. Décidément, elles n'intéressaient plus personne. L'île de Mornecey n'avait même pas les moyens de gaspiller quelques ampoules pour mettre en lumière ces vieilles pierres. La torche balayait les rares vestiges. J'avais deviné où l'on allait. Ce n'était pas bien difficile. Nous nous dirigions vers l'entrée du souterrain, celui que j'avais commencé à explorer avant-hier. Thierry se planta devant l'étroite ouverture et éclaira les 3 marches. Brigitte alluma elle aussi sa lampe et entra la première. Thierry sortit de sa poche une seconde lampe de poche, moins puissante, et me la confia. « Tu vas en avoir besoin. Il n'y a plus aucune clarté à l'intérieur. J'eus tout juste le temps de découper un morceau de crépon dans ma poche. Je le laissai tomber tout en avançant ma main pour prendre la lampe que me tendait Thierry. Un instant, je crus qu'il avait repéré mon geste. Par réflexe, il jeta un regard vers le sol, mais ne se donna pas la peine de braquer sa torche. Il n'avait rien vu. Mon oncle me fit signe de passer. Je descendis les 3 marches et j'entrai, coincé entre Brigitte et Thierry. L'entrée du tunnel était assez étroite. Le conduit devait faire environ 1,50 m, peut-être un peu plus. Nous étions tous les 3 obligés de nous courber. Ma torche éclairait les parois grises. Le tunnel était consolidé de poutres presque tous les mètres, et pourtant, je n'étais pas rassuré. L'accident des sanguinaires me revenait en mémoire. Cette île était un gruyère. Nous descendîmes à nouveau une petite dizaine de marches. Le tunnel devint plus haut. Nous pouvions désormais nous tenir debout. Une sensation de froid m'envahissait. Était-ce ce silence glaçant, la peur qui m'imprégnait, ou simplement la moiteur des vieilles pierres dans ce trou? Devant moi, Brigitte tourna à gauche. Je braquai ma lampe et, malgré sa faible puissance, je parvins tout de même à distinguer que le couloir principal se poursuivait tout droit. Un autre morceau de crépon rouge tomba doucement sur le sol, dans l'obscurité. Si ce souterrain était un labyrinthe, si des croisements se succédaient, mon fragile fil d'Ariane allait rapidement s'épuiser. Je me concentrai à nouveau pour enregistrer les distances et les directions. Environ 60 mètres tout droit, puis à gauche. Je comptais les pas dans ma tête. Je tentais de focaliser mon esprit sur la mémorisation de ce parcours, au cas où. Malgré moi, ces visages à la une de Lilien venaient brouiller mes pensées. Cet inconnu que ma mémoire me désignait comme mon père. Ne pas paniquer. Ne pas sombrer dans la folie. S'accrocher à quelque chose de rationnel. Ce dédale, par exemple. Ce maigre espoir. Brigitte tourna encore une fois à gauche. 30 pas depuis le dernier croisement. Tournait-on en rond? Mes doigts s'agitèrent. Moins de 3 centimètres de crépon rouge. J'en découpai un. Je glissai avec le plus de naturel possible mon bras le long de mon pantalon et, dans le noir, ouvris les doigts. L'espoir était maintenant infime qu'on retrouve ma trace. Mon pied heurta un monticule de petits cailloux. Ma lampe éclaira sur le côté une poutre fendue. La paroi s'était en partie effondrée. Un frisson me parcourut l'échine. Brigitte semblait bien connaître le terrain. Instinctivement, elle avait baissé la tête et continuait sur le même rythme, sans s'inquiéter. Les pas de Thierry résonnaient derrière moi, mais je ne me retournais pas. Le tunnel s'élargissait un peu et semblait suivre une longue ligne droite. Je comptais toujours mes pas. J'en étais à 45. Tout au fond du couloir, j'eus l'impression d'apercevoir une sorte de lueur. Était-ce mes yeux qui s'habituaient à l'obscurité? Une sortie? Ou bien une troisième personne venait à notre rencontre? Non, la lumière ne bougeait pas. Mais elle apparaissait de plus en plus nette. 80 pas. Le couloir tournait brusquement, à droite, 20 mètres plus loin. La lumière provenait de là. Brigitte se retourna avant le virage en évitant toujours de me regarder. Elle n'osa pas non plus me parler. Elle se contenta d'un mouvement de bras, de me faire signe de passer devant. J'hésitais. La main de Thierry me poussa dans le dos. Une nouvelle fois, un frisson me parcourut de haut en bas. Je n'avais pas le choix. J'avançais dans le couloir vers la lumière. Le tournant, presque à angle droit, m'interdisait de voir plus loin. J'avançais encore. Le couloir se prolongeait sur moins de 10 mètres, puis 3 marches. Le couloir virait alors à angle droit, à gauche, et s'ouvrait sur un porche voûté. J'entrais. C'était une pièce assez vaste, une sorte de crypte, d'environ 10 mètres sur 10, voûtée, soutenue par 3 gros piliers de granit sombre. Elle était sobrement meublée. Un matelas sale, quelques chaises, une table de fer, et faiblement éclairée d'une lampe à gaz, posée sur la table de fer. Penché sur la table, un homme étudiait une vaste carte, dépliée. Dans la lumière blanche de l'éclairage au gaz, je n'eus aucune peine à le reconnaître. Mon père! Son visage barbu s'éclaira d'un grand sourire, le même qu'il avait affiché lorsque nous nous étions retrouvés sur la crique aux mauves. « Colin !» fit-il de sa voix redevenue douce. « Je t'attendais. J'espère que tu ne m'en veux pas trop pour ma mise en scène de la cabane. » Mon père, à nouveau chaleureux, comme avant cet épisode incompréhensible de la cabane du pêcheur. Il allait m'expliquer. J'allais comprendre. Mon père, c'était lui. Cet inconnu sur l'affiche de Lilien n'avait rien à voir. Mon père était là, devant moi. Tout allait s'éclairer. J'avançais de quelques pas. Brigitte et Thierry entrèrent derrière moi. Mon père délaissa la carte et se leva pour m'accueillir, ses bras ouverts comme pour m'étreindre.
« Nous voici enfin réunis !» s'exclama-t-il.
« Enfin ! Tout va bien, Colin.
J'espère que tu n'as pas pris trop au sérieux la comédie de Lagrange. Il n'y avait pas de danger, tu sais. On n'étouffe pas en quelques heures. Il fallait te faire peur, jouer les méchants pour détourner l'attention. Je t'expliquerai. Thierry aussi a dû jouer son rôle de grand méchant, me décrire comme un vilain monstre. »
Mon père éclata de rire. Je me retournai vers Thierry, qui affichait un sourire un peu forcé. Mais il ne démentit pas mon père. Donc tout ce qu'il m'avait dit sur lui, sur ses crimes, il y a quelques heures dans l'infirmerie, n'était que mensonge. Non, mon père n'était pas un monstre, je le savais. Brigitte évitait toujours de croiser mon regard. Mon père avança d'un pas. J'allais ouvrir la bouche pour lui poser des questions, mais il leva la main.
« Tout va bien, Colin. Nous sommes en famille. Je t'expliquerai plus tard, mais il y a plus urgent tout de suite. »
Il baissa les yeux sur la carte éclairée. « C'est le plan souterrain de l'île, Colin. Plus de 10 ans de recherche, d'exploration, de rénovation. Mètre par mètre, parfois. Un plan unique. » Je parvins à articuler. « Tu l'avais caché chez le notaire ?»«
Oui. »
Thierry s'était approché. Il se retournait fréquemment vers le couloir, l'observant avec inquiétude. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Mon père semblait avoir également perçu son impatience.
« Nous n'avons pas beaucoup de temps, Colin. Il faut que tu te concentres. Ce plan doit nous mener à la folie Mazarin. »
Encore ce maudit trésor. La seule chose qui les intéressait tous. Mon père continuait. « Ces tunnels creusés par les bénédictins de l'île pendant des siècles.
Un véritable dédale. Regarde. »
Je fis quelques pas. Mon père me désigna une marque sur le plan jauni. Une croix rouge.
« Regarde cette croix, Colin. C'est ici qu'est caché le trésor, la folie Mazarin, au beau milieu du labyrinthe. »
Je me penchai vers la croix rouge, sur la carte. La main de mon père se posa sur mon épaule.
« Mais il nous manque encore un détail, Colin. Un détail que toi seul connais. Un détail dont toi seul peux te souvenir. »
Je fermai les yeux, obéissant. Je n'étais qu'un instrument. Toujours ce fameux souvenir enfoui dans ma mémoire. Un détail ? Quel détail ? Ce fameux dernier repas ? Les cris, la main de mon père, son alliance, sa main qui tenait un verre de vin qui le portait à ses lèvres, son visage qui se penchait vers moi. Son visage. Non. La lumière de la lampe à gaz posée sur la table projetait des ombres gigantesques sur les voûtes et les piliers de la pièce, déformant les silhouettes des adultes qui m'entouraient en figures monstrueuses. Dans mon souvenir, l'homme qui se penchait vers moi était mon père, je le savais. Mais pourtant, son visage n'était pas celui de mon père. Le visage de mon père dans cette crypte. Le visage de mon père photographié avec moi et ma mère devant l'abbaye, sur ma table de nuit depuis 10 ans. Brigitte avait posé cette photographie près de mon lit, quelques jours après la mort de mon père. J'avais 6 ans. Seulement 6 ans. Mais ma mémoire était déjà précise alors, fidèle. Je connaissais ce visage. Nul n'aurait pu me voler ce souvenir, le changer en un autre. Et pourtant, dans mes nouveaux souvenirs, ceux de ce repas d'adulte dans les ruines de l'abbaye, cet homme, mon père, qui se penchait vers moi, possédait le visage de cet inconnu dont j'avais vu le portrait sur l'affiche de Lilien. Cet inconnu qui me soufflait à l'oreille, « Colin, mon fils, je vais te révéler un grand secret. » Non ! J'ouvris les yeux, exorbité. Je ne voulais plus fouiller dans cette mémoire, je devenais fou. La pénombre de la crypte succéda à l'obscurité de mes yeux clos. Je parvins à articuler.
« Désolé, je peux pas. »
Je n'avais pas réussi à dire le mot « papa », à prononcer « Désolé, papa, je peux pas. »
« Il le faut, Colin, »
continua mon père. Presque imperceptiblement, sa voix s'était faite plus dure, plus froide, comme dans la grange de l'ivrogne. Il y avait seulement quelques heures. Le cauchemar allait-il recommencer ? Non. Thierry et Brigitte étaient là, toute ma famille.
« Il le faut, Colin !»
Sa voix était plus ferme encore, autoritaire maintenant.
Tu t'es souvenu de quelque chose tout à l'heure, dans l'infirmerie. Brigitte me l'a dit.
Je me retournai vers Brigitte. Elle se tenait tapie près du mur, dans l'ombre. Il m'était une nouvelle fois impossible d'attraper son regard. Ainsi, ils complotaient dans mon dos. Ils épiaient toutes mes réactions, simplement intéressés par ce maudit trésor. Après de longues secondes de silence, Brigitte bougea avec lenteur. Elle s'avança dans la faible lumière. Ses traits tirés avaient quelque chose d'effrayant, de fantomatique. Pourtant, je perçus dans le regard qu'elle posa longuement sur moi une profonde humanité, une sorte de compassion, presque la recherche d'une complicité perdue. « S'il te plaît, Colin, il faut que tu te souviennes. Ça ne te paraît peut-être pas important, mais pour que tout prenne un sens, pour toi, pour nous tous, il faut que tu te souviennes. C'est la seule façon de te protéger, si c'est encore possible. » Il fallait qu'elle m'en dise davantage. Il fallait que je lui demande de m'en dire davantage. Je demandais d'une voix faible. « Me protéger de qui ?» Personne ne me répondit. Un bruit de pas rapide résonna dans le tunnel à l'extérieur de la crypte. L'écho amplifiait les pas dans le souterrain. Qui pouvait venir ? Maddy et Armand ? Ils étaient parvenus à suivre ma trace grâce à mes minuscules crépons rouges. J'observais les visages devenus brutalement inquiets de Thierry et de mon père. Ils se posaient manifestement la même question que moi. Qui pouvait nous avoir retrouvés ? Les pas s'approchaient, réguliers, rapides. Une seule personne à coup sûr. Qui ? Maddy ? Une lumière se braqua. L'ombre entra, grande, trop grande. Un adulte. Il s'avança sans hésiter dans la faible lumière de la crypte. Je le reconnus à sa silhouette, avant même de découvrir son visage. Jean-Louis Valerino. Sa voix me glaça. « Désolé de troubler une si charmante réunion de famille. » Il n'était pas armé. Ni mon père ni Thierry ne firent un geste vers lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lança mon père. « Tu devais rester planqué. Tu vas tout faire foirer. On était en train de cuisiner le môme. » Le môme. Moi. Le cauchemar recommençait. Valerino répliqua. « C'est plutôt ce môme qui va tout faire foirer. Je ne voudrais pas jouer les ogres, mais ce petit con a joué les petits poussets. » Valerino ouvrit ses mains, et dans la lumière blanche, une pluie de crépons rouges chiffonnés tomba en flocons sur la table de fer. Il se retourna vers Thierry. T'aurais pu mieux le surveiller. T'aurais dû apprendre à te méfier de lui, depuis le temps. Il se fout de votre gueule. Encore heureux que je sois passé derrière vous. Ne pas réfléchir. Fuir. Franchir la porte voûtée de cette crypte et courir, au hasard, dans ce dédale. Elle était à moins de 2 mètres. C'était possible. Fuir sans réfléchir. Mon père, Brigitte et Thierry, mon oncle et ma tante, mes tuteurs, tous complices de ce tueur, Valerino. Un rêve atroce. Courir. La main de Valerino attrapa mon épaule, avant même que j'aie esquissé le moindre geste, comme s'il avait deviné mes intentions. Assieds-toi, petit. Mon père m'avança une chaise. Il s'était placé avec Thierry et Valerino, entre la chaise et la sortie. J'étais coincé. Je m'assis sans un mot. Brigitte ne disait rien, en retrait, comme statufié dans l'ombre. Valerino déboutonna sa veste en jean. Il dévoila de larges morceaux de papier pliés contre sa chemise. « Des affiches de Lilien !» fit-il avec un sourire satisfait. « J'ai arraché toutes celles que je pouvais. Ce torchon pourrait réactiver quelques souvenirs indésirables chez notre orphelin. » Mon père ne broncha pas. « Ça craint aussi, ces affiches !» insista Valerino. « Ça commence à faire beaucoup !» « Quelqu'un peut deviner qu'on est ici ?» demanda mon père. « Non, » répondit Valerino. « J'ai effacé les traces. On est tranquille pour l'instant. » Il se tourna vers moi. Il respirait rapidement et semblait avoir du mal à se contrôler. Son visage sec était secoué de spasmes. La prison, la fuite, la planque depuis quelques jours sans doute. Il souffla vers moi. « Alors, tu ne te souviens toujours de rien ? On va peut-être passer à autre chose que les méthodes douces. » Les confidences à papa et à tonton. Mon regard descendit. Il portait toujours à la ceinture un revolver. J'aperçus également un couteau. Le couteau avec lequel il avait déjà failli me poignarder avant-hier. Ma main se posa avec naturel sur la table de fer. Le plus près possible des crépons rouges jetés par Valerino. En ramassai quelques-uns, discrètement. La voix de Brigitte retentit soudain dans la crypte, tremblante, suppliante. « C'est bon !» « Nous n'avons qu'à continuer jusqu'à la croix indiquée sur le plan. Peut-être que Colin se souviendra à ce moment-là. » Ils se retournèrent vers Brigitte. Une diversion. Ma main se referma sur les morceaux de crépon rouge les plus proches. « Elle a raison, » assura mon père. « Plus on s'enfoncera dans ce souterrain, plus on sera en sécurité. » Valerino sortit lentement son revolver de son étui. Il posa le canon sur ma tempe. « D'accord pour le jeu de piste.
Ça te laisse le temps de rassembler tes souvenirs. Sinon... » Il ne jeta pas un regard vers ma main. Il ne s'était aperçu de rien. Mon père, debout derrière Valerino, me fixait. Il n'y avait plus aucun amour dans son regard, aucune compassion. Son regard était noir, vide, absent. Cela ne pouvait pas être le regard d'un père sur son fils. Je n'étais rien pour lui. Il me jouait la comédie. Cet homme debout n'était pas mon père. Cet homme m'avait trompé. Cet homme m'avait menti depuis le début. Il avait usurpé la place de mon père. Il avait volé le visage de mon père, entre ma mère et moi, sur la photographie de ma table de nuit. Je ne cherchais plus d'explications rationnelles. J'étais au-delà du possible.
« En route !» fit Thierry d'une voix faussement enjouée. « Avant de partir, Jean-Louis, tu devrais ramasser les morceaux de crépon rouge que tu as laissés sur la table. Le gosse s'en est déjà remis plein les pognes. »
Valerino grogna, m'ouvrit sans ménagement la main et plaça nerveusement tout le crépon dans ses poches. Il ne prit même pas la peine de me menacer à nouveau. Je n'étais qu'un pion entre leurs mains, manipulé. Depuis 10 ans, depuis ma naissance, j'étais définitivement perdu. Thierry se pencha pour éteindre la lumière au gaz sur la table de fer. La crypte fut plongée quelques instants dans le noir, avant que les torches ne prennent le relais. Lorsque je me levai, je sentis le cercle du canon du revolver de Valerino dans le bas de mon dos. Thierry passa devant, suivi de Brigitte. Valerino appuya sur le canon de l'arme pour me faire signe de les suivre. L'homme qui avait volé le visage de mon père fermait la marche.